Vous écoutez RTL.
RTL.
J'ai fait plusieurs simulations pour résoudre le problème à Encore, la façon dont les objets célestes interagissent. Tout le monde à la NASA se contente d'étudier les objets qu'on connaît, mais moi je recherche tous ceux qu'on a pu rater et j'en ai trouvé un.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Monsieur, je m'appelle Liam Cole, je suis élève au MIT. Dans 186 jours, un astéroïde va s'écraser sur Terre et tout le monde va mourir.
La curiosité est un vilain défaut.
Extrait de Salvation, une série qui raconte justement cette découverte d'un astéroïde qui fonce vers la Terre. C'est vrai que ça passionne les auteurs de fiction, de séries ou de films, ces histoires d'astéroïdes. Bonjour Olivier Sanguy.
Bonjour.
Bienvenue, heureux de vous retrouver.
Ça va,
vous êtes
merci.
Médiateur à la Cité de l'Espace de Toulouse qui rouvre ses portes au public le 7 février. Alors les astéroïdes font aussi l'actu scientifique, d'abord avec Ultima Thule. Est-ce que vous pouvez nous rappeler... Où est-il situé? Où est-elle située? Non, où est-il un astéroïde? Ça commence bien. Et pourquoi on en parle en ce moment? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, Ultima Thule, qui est très exactement un objet de la ceinture de Kuiper, donc c'est une ceinture d'objets au-delà de l'orbite de Neptune, donc on est à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre quand même, a été survolé par la sonde de la NASA New Horizons le 1er janvier de cette année. Et c'est le survol le plus lointain jamais fait. C'est un petit objet de 33 kilomètres.
Ah oui, j'allais vous demander à quoi il ressemble, Olivier Sanguy. C'est rond un astéroïde? C'est joli comme une planète?
Non, c'est pas très joli, ou ça a des formes bizarres. Parfois ça ressemble à une cacahuète, parfois à une banane, parfois comme dans ce cas-là, à un bonhomme de neige, on dirait deux lobes posés l'un sur l'autre.
Un peu tordu le bonhomme de neige, si j'en crois les images qui ont été reconstituées. À quoi ça sert? Pourquoi c'est utile scientifiquement de survoler un tel astéroïde aussi loin de nous?
Et la première utilité scientifique, en fait, c'est la quête des origines, puisqu'on estime que les astéroïdes, c'est ce qui a été mis au frigo lors de la formation des planètes. C'est ce qui n'a pas été utilisé, c'est les laisser pour compte. Donc étudier les astéroïdes, c'est étudier la Terre lors de sa naissance, il y a plus de 4 milliards d'années.
Qu'est-ce qu'on trouve dans un astéroïde, Olivier Sanguy? C'est quoi la matière? Qu'est-ce qui compose un astéroïde?
Essentiellement de la roche, des métaux et de la glace d'eau.
De la glace d'eau? À l'intérieur?
À l'intérieur, ou mélangé. Il ne faut pas s'imaginer des cornets de glace, hein, c'est totalement mélangé.
Ça existe depuis des millions, des centaines de millions,
des milliards d'années.
Mais depuis quand on s'en préoccupe, nous, humains? Depuis quand ils ont été découverts?
Alors, la découverte, c'est simple, on le sait, c'est en 1801. C'est un astronome italien, Giuseppe Piazzi, qui a découvert le premier. À l'époque, il a cru que c'était une planète, Cérès. Donc il s'est dit, je suis célèbre pour les siècles à venir. Ouais. Et puis on en a trouvé d'autres, malheureusement, derrière. Et on s'est dit, il y en a trop. C'était entre Mars et Jupiter. Aujourd'hui, Cérès est considérée quand même comme une planète naine parce qu'elle a 950 km de diamètre, ce qui en fait le plus gros objet, le plus gros astéroïde, qui n'en est pas un, de la ceinture d'astéroïdes.
Olivier Sanguy, ça nous fait rêver, ça nous intrigue, ces astéroïdes, rien que le mot est génial. Et pourtant, jusqu'au milieu du 19e siècle, ces astéroïdes avaient un surnom un peu négatif.
Oui, les vermines du ciel, parce qu'on s'imaginait qu'on allait les prendre sur la tête. Ce qui est sans doute arrivé d'ailleurs beaucoup de fois dans la genèse de la Terre, parce que le bombardement météoritique était plus fort pour des tas de raisons. Et puis après, on s'est rendu compte que finalement, ils avaient peut-être joué un rôle positif. Notamment lors de la formation de la Terre, ils ont amené des éléments. Certains estiment qu'ils ont amené les briques, des briques du vivant.
Ça veut dire quoi ça?
En gros, c'est ce qu'on retrouve dans l'ADN, c'est les chaînes carbonées complexes qui n'étaient peut-être pas sur Terre. Donc ça les a apportées. De l'eau, au départ on pensait que c'était les comètes, ça semble logique, puisque les comètes c'est des boules de neige sale. Mais grâce à la mission européenne Rosetta, on s'est rendu compte que l'eau des comètes n'était pas forcément la bonne eau. Et du coup, c'est peut-être les astéroïdes qui ont apporté la majeure partie de l'eau des océans.
Donc merci aux astéroïdes. Alors parmi cette famille là de corps célestes, il y a les géocroiseurs. Alors c'est quoi et pourquoi ils sont plus importants que les autres?
Alors géocroiseurs, géo pour la Terre, croiseurs parce qu'ils ont la mauvaise idée parfois de croiser l'orbite de la Terre. Donc ceux-là, on les estime sous surveillance parce que s'il y en a un qui nous percute, c'est déjà arrivé statistiquement, ça arrivera encore et ça arrive parfois, heureusement ils sont petits. Donc on les surveille. Il y a 500 000 astéroïdes catalogués, mais c'est pas tous des géocroiseurs. Et il y en a 8 000 qu'on surveille de près, mais on estime qu'on est loin du compte d'avoir fait le catalogue.
Mais alors, tout à l'heure, quand j'étais avec Pascal Praud, il me disait, mais attends, un astéroïde, on peut savoir des années auparavant s'il va nous tomber ou non sur la tête. Est-ce que c'est aussi précis que ça? Peuvent-ils changer de route?
Alors, changer de route, oui et non. C'est-à-dire, ils changent de route en fonction des lois de la physique.
Ouais.
Mais c'est très difficile à prévoir. C'est-à-dire, la trajectoire d'un astéroïde, quand on le détecte, pour, on va dire, les semaines à venir, on peut le prédire très précisément. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, ça fait de plus en plus un cône. de probabilité de présence. Parce qu'il y a des tas d'éléments qu'on ne sait pas prendre en compte, notamment si on ne connaît pas très bien l'astéroïde. Il faut savoir que quand il tourne sur lui-même, il y a un effet qui s'appelle Yarkovsky. Alors vous allez voir, c'est très simple. Il y a le jour et la nuit sur un astéroïde, il tourne sur lui-même. Oui. La face jour, elle est chauffée. Quand il tourne sur lui-même, la face jour se retrouve nuit, mm-hmm. et la chaleur accumulée est expulsée. Et bien ça fait une propulsion, ça modifie sa trajectoire. C'est très faible, mais au fur et à mesure des années et des années, l'orbite peut changer. Donc en gros, quand on dit l'astéroïde se dirige vers la Terre, c'est oui, enfin, sur l'échelle possible, il y a peut-être la Terre à ce moment-là dedans.
D'accord. Bon, on aimerait bien se rassurer, à la fois la question que je vais vous poser, Olivier Sanguy, fait peur. Quel est le plus gros astéroïde qui ait percuté la Terre?
Alors le plus gros, c'était sans doute pas un astéroïde, c'était un objet de la taille de Mars et ça a créé la Lune il y a plus de 4 milliards d'années.
Pas mal. D'accord.
Ensuite, il y a en Afrique du Sud le cratère de Veretford, je dois très mal le dire. C'est un objet assez volumineux, plusieurs kilomètres, et ça a laissé un cratère de 200 à 300 kilomètres de large. C'était il y a 2 milliards d'années. Et là, récemment, au Groenland, on aurait trouvé la trace d'un impact de 300 kilomètres de large. Mmh. C'était le genre d'objet qui détruit la majeure partie des êtres vivants sur Terre.
Mais un astéroïde beaucoup plus petit, tiens, par exemple quelques dizaines de mètres de diamètre, 30, 40 mètres, ça dégagerait sur Terre, en cas de choc, l'énergie équivalente à celle de la bombe. Hiroshima, comment peut-on les détruire ou alors les faire dévier de leur course? Réponse à venir sur RTL.
Jusqu'à 15h.
Tous les regards et tous les rêves de la planète sont tournés ce soir vers ces 14 héros.
Thomas Hugues.
Qui vont s'envoler vers les étoiles.
Sidonie Bonnec.
Citoyens du monde, puissions-nous survivre à cette épreuve.
Sur RTL.
Bonne chance à tous et que Dieu soit avec nous.
Armageddon, un film de Michael Bay avec Bruce Willis, qui est sorti en 98, et il y avait un astéroïde, c'était un peu le personnage principal du film.
Il jouait très bien, très menaçant,
hein, de la taille du Texas, qui menaçait de s'abattre sur la Terre. Alors faut-il avoir dans la vraie vie peur des astéroïdes? On répond à cette question avec Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. On parle de comètes, météorites, astéroïdes, c'est quoi la différence entre tout ça dans le ciel?
Les astéroïdes, typiquement, c'est des rochers, on va dire. Les comètes, c'est de la glace d'eau. Alors, les comètes ont des trajectoires plus allongées. C'est-à-dire, en gros, les astéroïdes, généralement, tournent autour du Soleil tranquillement comme la Terre, avec parfois des orbites un peu gênantes pour nous. Les comètes peuvent venir de loin, donc leur orbite ressemble plutôt à une ellipse très aplatie. Et là, c'est un peu plus gênant parce qu'elles peuvent arriver très vite.
Donc, les comètes, elles jouent dans une autre équipe, mais météorites et astéroïdes, comment on les différencie?
Alors, le météorite, c'est l'objet qui se balade dans l'espace. Quand il traverse l'atmosphère, qui brille, ça fait l'étoile filante, c'est un météore. Et quand ça touche le sol, ça devient une météorite.
Mais c'est composé de choses différentes par rapport à l'astéroïde?
Non, c'est l'astéroïde devient une météorite. Ce qui reste, ce qui n'a pas brûlé. Donc c'est de la roche, il y a du métal dedans. Quand on les analyse, on fait des choses scientifiques très intéressantes. Parfois, certaines météorites viennent de Mars. Imaginez un astéroïde qui percute Mars. Il y a des bouts de Mars qui s'envolent comme ça dans l'espace. Ça tourne autour du Soleil et un jour, ça arrive sur Terre. D'ailleurs, on a une météorite martienne à la Cité de l'Espace.
Ah, génial, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder. Regarder.
Et qu'on pourra revoir à partir du 7 février, puisque la Cité rouvre ses portes ce jour-là. Alors bon, on a évoqué la difficulté de prédire l'arrivée d'un météorite. On a retrouvé cette archive. Tiens, ça date de juillet 2002. On annonçait, Sidonie, écoutez bien la voix du présentateur télé, on annonçait ceci.
C'est une menace qui fait froid dans le dos, elle nous vient de l'espace. Les scientifiques américains et britanniques viennent de détecter un astéroïde qui pourrait heurter notre planète en 2019. Heureusement, la probabilité est faible. Carole Vénua et Gwen Le Guil.
Voilà ce qui pourrait arriver le 1er février 2019 si l'astéroïde géant venait à percuter la Terre. 2002 NT7, c'est son nom, serait projeté à une vitesse de 100 000 km/h.
Si cet impact venait à arriver sur la France, toute l'Europe occidentale serait dévastée.
Ouais, ah, mais c'était le grand présentateur, Thomas
Hugues.
Mais
oui. C'est drôle parce que
tu regardais à la télé quand j'étais petite.
Je me souvenais absolument pas d'avoir balancé cette info à l'époque.
Thomas Nostradamus, oui, m'écrit sûr, notre évidemment. Productrice Coralie Lutier.
Mais alors attendez, parce que Olivier Sanguy, on annonçait, on l'a vu on l'a écouté dans le reportage là, 1er février 2019, mais c'est vendredi. Donc il est ce météorite là, je sais plus comment il s'appelait, il est arrivé, il va arriver, on en est où?
Il est même passé le 13 janvier, ça s'invente pas un 13. Hein. C'était là.
l'info précision presque.
J'ai regardé ça avant de venir. À 61 millions de kilomètres de la Terre. Donc on était tranquille. Bon, après, les échelles de distance astronomique, c'est toujours un petit peu relatif, hein, comme disait Albert. Donc on peut trouver ça près, mais assez loin. Ouais. Voilà, il est passé. C'est vrai que s'il avait percuté, ça aurait été franchement catastrophique. Hein, mais c'est pas le cas.
Pourquoi on se trompe à ce point ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en 2002, on annonce qu'il va toucher la Terre le 1er février 2019. Faut qu'on se dise, c'est ultra précis.
Bah, parce que quand on l'a détecté, on avait juste un petit bout de son orbite. Donc il y avait de grandes possibilités de se tromper. Après, on a continué à l'observer. Là, on a affiné sa trajectoire. Et donc, finalement, on a trouvé que c'était pas si dangereux que ça. Mmh. Bon, ceci dit, on a eu raison un petit peu de dire attention. Parce qu'à l'époque, c'était le premier astéroïde qui avait une notation positive sur ce qu'on appelle l'échelle de Palerme, qui est une échelle qui note la dangerosité des astéroïdes. Généralement, c'est en dessous de zéro. Et là, il faisait 0,06. Donc, on s'est dit, oulala. Puis après, on a fait des observations. On s'est dit, non, ça va, il passe à côté. Mais bon, un jour, peut-être qu'on en trouvera un qui sera pas sympa.
Alors, Olivier Sanguy, justement, si un jour on en trouve un qui est pas sympa, l'une des solutions évoquées pour éloigner le danger, c'est de dévier la trajectoire des astéroïdes. C'est l'objectif de la mission DART. En quoi consiste cette mission ?
Cette mission consiste tout simplement à percuter la lune d'un astéroïde. C'est-à-dire, il y a un astéroïde qui s'appelle Didymos, qui fait 800 mètres environ, et il a une petite lune de 150 mètres, je crois. Et on va percuter ça avec une sonde spatiale qui va avoir une grande vitesse.
Ah, c'est comme du billard, quoi.
Tout à fait. Et on compte faire bouger légèrement l'orbite de cette lune.
Ah, ouais.
Mais quelque chose qui se mesurera avec des télescopes, parce qu'à ce moment-là, on sera à 11 millions de kilomètres de la Terre.
On fait bouger la lune et donc ça fait bouger la trajectoire de l'astéroïde, c'est
non,
ça ?
Non, juste la lune. Parce que la Lune, c'est 150 mètres, donc on pense pouvoir mesurer le mouvement qu'on va faire avec juste une sonde spatiale qu'on va envoyer à grande
d'accord,
vitesse.
D'accord, parce que ce météorite ne nous menace pas vraiment, c'est un test en fait, c'est un crash test qu'on va faire.
Tout à fait,
d'accord.
C'est un crash test et on veut mesurer concrètement ce qu'on peut faire avec une petite sonde spatiale pour avoir une table de référence sur ce qu'on pourrait faire si quelque chose de plus gros, si un astéroïde plus important nous menace.
Qu'est-ce qu'il faut envoyer ? Quelle taille, quel poids, quelle puissance en fonction de la taille de l'astéroïde ?
Voilà, on passe de la théorie à la pratique.
Bien compris.
Les astéroïdes les plus gros, que nous apprennent-ils de la formation de l'univers ? Comment s'en débarrasser s'ils nous menacent ? On a encore plein de questions de curieux à poser à notre invité. Restez avec nous sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les astéroïdes se sont révélés être un sujet d'étude fascinant.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce qui étonne en premier, c'est leur diversité. On peut les trouver en grands groupes ou de manière éparse, de la taille d'un caillou ou d'une planète naine.
Sur RTL.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est moi, Hippolyte Calice, qui ai découvert cette énorme boule de feu qui se dirige droit vers nous à une vitesse inimaginable et qui va entrer en collision avec la Terre.
Hein ?
C'est la fin du monde, oui.
Extrait de Tintin et l'étoile mystérieuse. On est toujours avec Olivier Sanguy, médiateur à la Cité de l'Espace de Toulouse, qui rouvre donc ses portes le 7 février. Olivier, on a eu aussi envie de vous inviter en voyant le titre du magazine Science et Vie, Astéroïde Tueur, le premier crash test. C'est la une de leur numéro de février. C'est en fait la mission DART dont on parlait tout à l'heure. Moi, ce que en feuilletant le magazine, ils nous disent, mais on n'est pas armé aujourd'hui pour surveiller les satellites. C'est pas vraiment une préoccupation majeure. C'est vrai ou c'est en train de changer ?
Disons qu'on n'est pas assez armé.
Oui.
Il y a aujourd'hui des télescopes automatiques qui balayent le ciel et on compare ce qu'ils prennent en photo et la petite étoile qui bouge, en gros, de façon anormale, c'est un astéroïde. Mais il est clair que les moyens mis en œuvre sont insuffisants. On pense qu'on rate quand même pas mal d'astéroïdes qui pourraient être potentiellement dangereux.
Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de télescope assez grand pour les capter. C'est comme ça qu'on les surveille, les astéroïdes ?
Oui, il n'y en a pas assez. Il en faudrait, par exemple, dans l'espace pour être libéré de l'atmosphère, pour pouvoir observer jour et nuit. En plus, on a un angle mort quand on observe le ciel, c'est le soleil qui ne permet pas d'observer des astéroïdes qui arriveraient par une mauvaise trajectoire. Donc il faut augmenter les moyens. C'est connu, il y a une fondation aux États-Unis qui s'appelle B612, qui a été fondée par un ancien d'Apollo 9, Rusty Schweikart, qui dit il faut faire des efforts. C'est bon, on en est conscient, mais après, il faut mettre les budgets, c'est pas forcément évident.
C'est pas une priorité des gouvernements dans le monde, c'est ce que vous voulez dire ? C'est presque encore qu'une lubie scientifique ?
Alors, c'est plus une lubie scientifique, ça devient de plus en plus une priorité. Il y a eu des budgets votés, mais les astronomes disent que c'est insuffisant. Vous avez aussi des jours comme c'est tous les 30 juin, vous avez l'Astéroïde Day avec des astrophysiciens, dont un qui est assez connu, mais pour autre chose, c'est Brian May, le guitariste du groupe Queen, qui est aussi astrophysicien, et lui se mobilise chaque année pour dire il faut faire quelque chose pour mieux détecter les astéroïdes.
Mais parce qu'il y a quand même de temps en temps des astéroïdes imposants qui frappent la Terre. Tiens, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Alors, je crois que le nom du site, c'est Tcheliabinsk.
Oui, c'est une ville russe. Et en effet, un astéroïde d'une quinzaine de mètres a explosé à 23 km d'altitude, on pense. Et c'est l'onde de choc qui a fait des dégâts. Les gens ont été blessés. Il y a eu environ une centaine de blessés. C'est pas l'astéroïde qui les a blessés directement, c'est l'onde de choc qui a fait éclater des vitres, fait tomber quelques petites constructions qui n'étaient pas très solides. Et là, il y a eu des blessés. Ils ont eu pas mal de chance, ça aurait pu être beaucoup plus grave.
Qu'est-ce qu'on imagine encore pour dévier ces astéroïdes? Est-ce qu'il y a d'autres projets que la mission DART?
Alors, il y a des tas d'idées qu'on voudrait bien tester. Bon, DART en fait partie. Bon, il y a bien sûr l'explosion thermonucléaire à proximité, mais ça, c'est la solution de la dernière chance. On peut imaginer des
choses...
C'est
interdit aujourd'hui, ça.
C'est interdit. On peut espérer quand même qu'on fera une petite exception si on est menacé.
Pourquoi? Parce qu'il y a des morceaux irradiés qui pourraient tomber sur la Terre. C'est quoi le problème?
C'est surtout que le traité de l'espace qui a été signé au début de la conquête spatiale interdit toute arme de destruction massive dans l'espace.
Sauf si une arme naturelle venait nous écrabouiller.
On changerait d'avis.
Voilà, je pense qu'on changera, il faudra un petit alinéa. Voilà,
on n'allait pas prendre trop de temps pour changer d'avis. Quoi.
Après, il y a des tas d'idées, comme on pourrait poser un propulseur automatique sur l'astéroïde qui pousserait et qui dévierait sa trajectoire. On peut envoyer un vaisseau massif devant ou derrière lui et il va attirer très légèrement l'astéroïde et modifier à nouveau sa trajectoire.
Quand vous dites vaisseau massif, aujourd'hui, ça n'existe pas dans la gamme des lanceurs.
Quelques tonnes peuvent suffire.
D'accord.
Si on détecte à l'avance. Le but, c'est de détecter, par exemple, si on prend 2 siècles à l'avance, quelques mètres là-haut, 2 siècles plus tard, l'astéroïde nous évite.
D'accord. Il n'y a plus la navette spatiale américaine, mais ça suffirait?
Ça suffit sur le papier.
D'accord.
Alors, si on n'a pas le temps de développer tout ça et qu'on se prend un astéroïde sur le coin du nez, donc déjà, quels sont les dangers? Ça dépend, j'imagine, déjà de la taille de l'astéroïde. À partir de combien de mètres de diamètre, ça devient hyper dangereux pour nous, les humains?
Quand on commence à arriver à 100 mètres de diamètre, on peut avoir très peur parce que, en gros, même à quelques dizaines de mètres de diamètre, on peut avoir ce qu'on appelle un événement local, mais qui est terrible. Par exemple, on peut détruire Paris avec un astéroïde de moins de 100 mètres.
Je disais la puissance d'Hiroshima pour un astéroïde de 30 mètres. Ça m'a surpris en préparant l'émission.
Ça peut être beaucoup plus. Parce qu'il y a d'autres, si vous voulez, il y a aussi rentre en ligne de compte la densité de l'astéroïde, à savoir si c'est des métaux, donc c'est dense, plus la vitesse. Donc plus ça va vite, plus c'est dense, plus l'impact sera malheureusement catastrophique.
Je crois qu'on ne l'a pas dit, mais l'hypothèse la plus plausible pour expliquer la disparition des dinosaures, c'est un astéroïde.
Un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre, donc c'était un impact majeur. Alors, il n'a pas tué directement les dinosaures, sauf ceux qui étaient dessous ou à quelques centaines de kilomètres d'impact, bien sûr, voire même quelques milliers. Mais c'est que les conditions de l'écosystème terrestre ont été bouleversées. Il y a eu un hiver nucléaire, on pense que ça a fait des feux de forêt gigantesques.
Un hiver nucléaire, c'est quoi? Un hiver qui dure plusieurs années parce que le soleil a été caché par de la poussière, par exemple?
La poussière soulevée par l'impact, la poussière des incendies de forêt déclenchés par la vague de chaleur de l'astéroïde. On peut imaginer que la tectonique... Enfin, il y a eu plus de tremblements de terre, voire des éruptions volcaniques à cause de ça. La liste est assez impressionnante de ce que peut faire un gros astéroïde. Mais les gros, on les voit venir normalement de loin. On pense que 93% des astéroïdes dangereux de plus d'un kilomètre sont connus aujourd'hui. Ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle les city killers en anglais, c'est-à-dire les tueurs de ville. Donc ces astéroïdes autour de la centaine de mètres, et on risque de les voir venir un petit peu tard.
D'accord, mais alors, comme le génie humain est infini, il y a une solution qui semble complètement dingue. Il s'agit de peindre une partie de l'astéroïde. On va vous raconter ça dans un court instant, comment ça marche. Et puis juste après, un destin extraordinaire, Sidonie.
La Goulue, la reine du cancan, son histoire est fascinante. C'était une artiste, évidemment, mais une féministe qui avait un sacré caractère.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité sur RTL, c'est jusqu'à 15h. Histoire, grand destin, saga musicale, science, tout nous passionne. Et justement, on découvre en ce moment les risques liés aux astéroïdes avec Olivier Sanguy, qui est médiateur à la Cité de l'Espace de Toulouse. Bon, alors c'est vrai qu'on parle un peu de la fin du monde depuis tout à l'heure avec vous. Mais vous nous dites qu'on surveille quand même ces astéroïdes et qu'on a des solutions géniales, on a décidé de les peindre. Ça va nous sauver, ça?
Ça peut nous sauver, ça semble bizarre.
Hein,
l'art peut tout, après tout. En gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'effet Yarkovsky. Donc, jour-nuit sur l'astéroïde, la face jour prend de la chaleur, quand il tourne, cette chaleur est expulsée dans l'espace, ça a un effet de propulsion. D'accord. Si vous le peignez, vous modifiez cet effet-là et vous pouvez modifier sa trajectoire. Donc après, il ne vous percute plus.
Mais juste pour le peindre, il faut lui dire « Attends, bouge pas parce que c'est pas évident. Il faut le peindre alors qu'il est en train d'avancer très vite.
On enverra une sonde spatiale le faire. On a aussi envisagé de déployer des couvertures de survie qui feraient la même chose que la peinture. Enfin, il y a beaucoup d'idées. Vous savez, comme disait, je crois que c'était Arthur C. Clarke, qu'on lui attribue à lui, l'auteur de 2001, il disait « Les dinosaures sont morts parce qu'ils n'avaient pas de programme spatial. » Donc on en a un, profitons-en.
Donc on est entre de bonnes mains, Olivier Sanguier, vous nous rassurez. Pas d'astéroïdes sur le coin du nez.
Pour l'instant,
normalement.
Dans ceux qu'on a repérés.
Il n'y en a pas détecté pour le moment.
Voilà, dans
tout est dans le normalement quand même.
Et s'il y en a un détecté, on a des idées. C'est déjà ça, parce que parfois, on ne peut rien faire contre certaines catastrophes naturelles. Tandis que là, on peut la détecter à l'avance et on a des idées sérieuses pour l'empêcher. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle.
Bon, ben voilà, on termine sur une note rassurante. La Cité de l'Espace de Toulouse qui rouvre le 7 février. Il y a un programme particulier pour cette saison ?
Et oui, parce que 2019, 50 ans, les 50 ans des premiers pas sur la Lune en 1969. Donc, une exposition spéciale, des événements et bien sûr une très grande soirée Lune le 20 juillet.
Merci beaucoup.
Merci Olivier.
Olivier Sanguy.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.